tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Des images de petits enfants couverts de poussière de larmes en Syrie suite au dernier bombardement. Le tweet de Donald Trump disant qu'il faut armer les profs pour éviter les tueries dans les écoles et avec le torrent de réactions outrées qui a suivi. Des propos sexistes de tels acteurs qui font scandale ou encore l'œuvre d'art offerte à la ville de Paris par Jeff Koons qui suscite un torrent de réactions. Autant de vidéos et de textes qui sont très partagés sur les réseaux sociaux et qui ont un point commun. Et ce point commun, c'est l'indignation. L'indignation qui est devenue un des carburants les plus puissants du web qui génère du clic et du partage. Bonjour Olivier Clairoin.
Bonjour Julien, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être avec nous en duplex de Paris. Vous êtes le chef du pôle vidéo au journal Le Monde. Vous avez récemment publié, c'était fin janvier, une analyse qui s'était appelée « Réseaux sociaux, la pente glissante de l'indignation permanente ». Alors pourquoi, Olivier Clairoin, pourquoi est-ce que l'indignation est aussi présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux ?
Alors en fait, c'est un mécanisme qui est pas si compliqué que ça. En fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi tous les jours, depuis quelques années, on commençait à se poser en tant que journaliste, qu'est-ce qui fait réagir les gens. En fait, c'est une chercheuse américaine qui a travaillé notamment sur le sujet, qui s'appelle Monique Roquette, qui explique qu'en fait, l'indignation est le moteur des réseaux sociaux. Alors comment ça marche? En fait, les réseaux sociaux, on parle de Facebook, on parle de Twitter, de ce type de réseau-là, ils ont un intérêt, c'est de conserver les internautes chez eux, de faire en sorte qu'ils s'en aillent pas. Or pour ça, le principal moyen de faire en sorte qu'ils restent sur les plateformes, c'est générer de la conversation, et pour générer de la conversation, il faut générer de l'émotion. Et parmi ces émotions, c'est ce que montre Monique Roquette, celle qui fonctionne le plus, c'est l'indignation, parce qu'elle peut s'adapter en fait à tous les types de sujets, ce qui fait qu'on trouve notamment, on trouve par exemple Facebook qui au début avait créé juste, je sais pas si vous vous souvenez, simplement le bouton like, mm-hmm. et ensuite a créé plein de boutons différents, dont ce bouton énervé, ce bouton qui pleure, ce bouton qui rit. L'idée, c'est vraiment en fait d'alimenter les conversations avec les sentiments. L'indignation donc est celui qui marche le mieux. L'explication derrière, apportée notamment par une étude de Yale, pourquoi est-ce que l'indignation fonctionne particulièrement, c'est qu'en fait c'est facile. C'est facile tout simplement de s'indigner sur les réseaux sociaux. On peut appeler par exemple à boycotter une entreprise pour telle ou telle raison. Il suffit de faire un tweet. Il suffit de faire un post Facebook, ça se fait en quelques secondes. Après, on peut se poser la question, pourquoi le faire? Sachant qu'évidemment, c'est pas parce qu'une personne va appeler, par exemple, à boycotter une entreprise que des centaines de milliers de personnes vont le faire et que cette entreprise va mettre la clé sous la porte. En fait, ce que cette étude américaine montre, c'est que la raison pour laquelle les gens le font, c'est que ça permet pour chaque internaute, d'affirmer qui on est, d'affirmer les valeurs qui sont importantes pour soi.
Et on voit sur Facebook notamment, mais Twitter aussi, Donald Trump est un exemple très fort, mais il y a chaque petite personne peut le faire aussi. C'est vrai que c'est des réseaux sociaux où on est presque amené, on se sent presque poussé à prendre position. On l'a vu lors de grands événements, c'était les attentats, ça peut être, j'ai parlé de la guerre en Syrie, ça peut être des élections en France, en Suisse ou ailleurs. C'est comme s'il y avait une sorte d'injonction à prendre position. Et l'indignation serait peut-être une des formes de prise de position.
C'est ça, complètement. Complètement l'indignation, la compassion. Si je veux prendre un exemple, là on parle de Trump, mais on peut parler aussi des attentats de Charlie en 2015. C'est pas pour rien si la formule qui s'est popularisée très vite, c'est « je suis ». Si vous voulez, derrière, c'est je suis, donc c'était je suis Charlie, qui ensuite a essaimé partout dans le monde, est devenu je suis Kenji, je suis Kenya, je suis Ahmed. Il y a eu plein de je suis qui sont multipliés. C'est-à-dire que le mouvement derrière ça, c'est on veut montrer son indignation face à un attentat, on veut montrer sa compassion, mais c'est toujours à la première personne du singulier. À la différence de, par exemple, en 2001, après les attentats du 11 novembre, c'était « nous sommes tous américains ». Et là, c'était « je suis », parce qu'en fait, c'est une manière pour soi de dessiner les contours de qui on est en fait sur Internet, de ce qui est important pour nous.
D'ailleurs, peut-être d'une autre manière, mais le mouvement suite à l'affaire Weinstein, c'était « me too », c'était aussi « moi ».
Oui, c'est vrai.
Donc c'est à la fois le positionnement de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut dénoncer, mais d'une certaine manière, Olivier Clairon, est-ce que les médias de manière générale n'ont pas toujours fonctionné un petit peu comme ça? On a beaucoup, la presse à scandale, par exemple, existe depuis très très longtemps. Je pense qu'elle est presque au fondement de la presse écrite notamment. Donc est-ce que c'est pas juste dans les médias, le presque un des gènes du média, que cette forme d'indignation?
Oui, peut-être. Je dirais que peut-être qu'une étape supplémentaire a été franchie. Mais oui, effectivement, de toute façon, en fait, le cœur derrière pour les médias, c'est de capter l'attention des gens. C'est pour ça qu'on les pousse à s'indigner. C'est parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne. Or, capter l'attention des gens, ça a toujours été le souci des journalistes. Quand on fait un titre qui frappe, quand on fait une photo, quand on travaille l'accroche de son article avec des phrases fortes ou avec une scène qui parle tout de suite aux gens, l'idée, c'est forcément de capter leur attention. C'est ce qui a été appelé dans les années 70 l'économie de l'attention. Mmh. Là, on est juste, je pense, dans une forme d'étape supplémentaire qui peut poser question par après les formes de dérive qu'on peut avoir derrière. La question, c'est est-ce que l'information est toujours là?
On en parlera justement des dérives tout à l'heure, mais c'est vrai que on peut parler des médias. Vous, en tant que responsable des vidéos au Monde, vous pouvez vous poser des questions. Quelle vidéo, par exemple, vous mettez? Mais les personnes elles-mêmes, il y a un côté flatteur, finalement, dans l'indignation. C'est-à-dire que plus on récolte de likes ou de partages pour quelque chose qu'on a publié, plus on se dit, bah, tiens, je vais peut-être refaire un petit peu quelque chose du même tonneau pour la prochaine fois.
Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On en voit assez facilement les internautes qui sont un peu des professionnels de l'indignation et qui s'indignent pour tout et n'importe quoi et qui du coup ont beaucoup de public derrière après qui les suit, c'est sûr.
Il y a l'écrivain éditeur Laurent de Sutter qui s'est pas mal exprimé sur cette question. Il dit notamment que ça a remplacé un peu cette manière de faire, la politique et le militantisme. Il parle aussi qu'il y a une forme de jouissance de l'indignation. Est-ce que c'est un constat que vous partagez?
Alors, à titre personnel, non, pas vraiment, mais oui, je comprends largement son analyse. Et lui, ce qu'il critique aussi derrière, c'est le fait que, en fait, à force de s'indigner pour toutes sortes de causes plus ou moins importantes, on en oublie aussi qu'il faut agir après.
C'est ça, donc c'est là qu'il dit que ça remplace le politique et le militantisme, parce qu'après, en gros, on parle, mais on ne fait pas grand-chose.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc du coup, lui, s'indigner contre l'indignation, en fait, Laurent de Sutter.
Et pour vous qui travaillez dans les médias, vous êtes assez jeune, hein. Vous avez quel âge, Olivier Clairon?
J'ai 29 ans.
29 ans. Profil jeune pour des médias récents. Est-ce que Facebook a modifié pour les médias la manière un tout petit peu de se positionner, notamment en termes de vidéos, mais qu'est-ce qu'on met à manger à nos lecteurs?
Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça. Alors, si je prends le cas de la vidéo, parce que c'est fondamentalement ce que je connais le mieux, en fait, dans les dernières années, on a vu apparaître une nouvelle grammaire radicalement différente de ce qu'on pouvait faire il y a 6 ou 7 ans en vidéo sur Internet. C'est-à-dire que pour s'adapter notamment à Facebook, on a commencé à faire des vidéos jouables sans son, avec des grands synthés, explicatifs directement sur l'image, une musique assez nerveuse en général qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore 6 ou 7 ans sur nos montages, des images fortes tout de suite dans les 3 premières secondes parce qu'on sait que l'attention des gens est extrêmement courte quand ils scrollent comme ça, quand ils parcourent le fil de leur profil Facebook. Donc oui, on a vu clairement en fait une modification peut-être de notre manière de travailler, et aussi cette injonction aussi à faire des formats relativement courts. Je pense qu'on commence à en revenir. Et le problème, c'est que plus on fait un format court, plus c'est compliqué de rajouter de l'information aussi derrière.
Et d'ailleurs, ces formats courts, il y en a plein. C'est le Brut en France. En Suisse, on a un nouveau qui est fait par RTS. Il y a aussi Kappa ou d'autres choses comme ça. C'est vrai qu'eux, ils fonctionnaient beaucoup aussi sur le modèle d'indignation. Ils ont vu que ça marchait bien. On aimait bien montrer ce sénateur peut-être démocrate qui met en pièce un sénateur républicain aux États-Unis ou telle ou telle dénonciation féministe ou écologiste. Ça fonctionne assez bien.
Ah oui, non, mais ça fonctionne très bien puisque forcément les personnes réagissent, postent un commentaire, puis après le partagent avec leurs commentaires et on voit que c'est, enfin, en plus Facebook a particulièrement œuvré ces deux dernières années, on va dire, pour pousser en avant justement ces vidéos, donc les audiences étaient très fortes, mais ça fait que des fois on croise des choses qui moi m'interpellent en tant que journaliste. Je vous prends juste un exemple d'un média qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps en France, qui publiait une vidéo c'était sur Twitter cette fois, où en gros c'était les images d'une mère palestinienne qui retrouvait son fils qui avait été enfermé pendant 12 ans dans une prison israélienne. Donc les images sont très fortes forcément, hein, les deux personnes sont en pleurs, c'est extrêmement émouvant. Mais à l'intérieur elle-même de la vidéo, on n'a pas beaucoup d'informations finalement, et en plus c'était accompagné d'une phrase de présentation. Alors je l'ai noté pour pas dire de bêtises, c'était écrit: les retrouvailles entre cette mère palestinienne et son fils emprisonné 12 ans par Israël vont vous faire fondre. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes mots, vont vous faire fondre, qu'on pourrait utiliser pour une vidéo pour des chatons, par exemple. Et on en vient, en fait, finalement, à parier plus ou moins plus sur la promesse d'une émotion avec le contenu que, en fait, la certitude d'une information, en quelque sorte.
Donc l'indignation a remplacé les chatons.
En tout cas, elle fonctionne peut-être parfois mieux que les chatons. Mais en tout cas, l'indignation, on peut donner l'impression de faire de l'information en faisant de l'indignation, c'est plus compliqué avec les chatons quand même.
Ouais, c'est vrai. Au moins, les chatons, on s'attend pas à comprendre comment fonctionne peut-être le Proche-Orient et à résoudre les problèmes qui peut y aller.
Exactement.
Olivier Clairvin, nous parlons du succès de l'indignation sur le web avec vous. Ce matin, on vous retrouve juste après Narcisse.
Tribu, 11h, 11h30 sur la première.
Même si je vais pas t'écrire un poème, si j'ai pas vraiment l'âme, poème, parce qu'enfin c'est toujours le même thème, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si je trouve chelou ceux qui s'aiment, qui s'enlacent et s'embrassent et qui s'aiment, le trouble en moi, c'est bien là mon problème. Je déteste ce thème. Mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime, j'aime rien. Mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime.
J'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur
j'aime, 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 j'aime. Si j'avoue aimer ta peau d'ébène, t'attendras bien 100 ans une aubaine avant que je t'écrive, je t'emmène dans les jardins d'Éden. Même si slammer ou chanter c'est idem, c'est toujours la même chaîne de mots démodés, ça me démotive à l'extrême. Je déteste ce thème, mais quand même j'aimerais te cliquer sur j'aime, j'aime. Mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime.
J'aime rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur j'aime. Rien, mais quand même, j'aimerais te cliquer sur
j'aime, 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 j'aime. Même si je vais pas t'écrire un poème, si j'ai pas vraiment l'âme, poème, parce qu'enfin c'est toujours le même thème, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si au fond je le sais, je me gêne, mes mots sont comme tenus par des chaînes, j'ai la haine, la langue d'une chienne. On est bien tous les mêmes, ce problème y a 1000 ans qu'on le traîne. Il faudrait qu'on s'exerce, qu'on s'entraîne. Tous les jours, on nous envoie des j'aime, mais jamais un je t'aime.
Cliquez sur j'aime.
J'aime, c'était le chanteur et slameur suisse Narcisse. On vous retrouve, Olivier Clairoy. Nous parlons de l'indignation sur ce web, ce moteur très puissant qui est fortement utilisé. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous dites, le problème, c'est qu'à force d'utiliser et de surutiliser l'indignation, il peut y avoir des effets néfastes. C'est quoi pour vous les effets néfastes?
Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est assez évident au premier abord, c'est qu'en fait, comme on veut pousser les gens à réagir, on peut avoir tendance à être de plus en plus rapide et de faire soi-même en fait des raccourcis en fait dans le traitement journalistique qu'on fait de certains événements. L'exemple que je prenais dans cette analyse que j'ai publiée du coup il y a quelques semaines, c'était l'exemple de l'affaire Keaton Jones. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était ce jeune garçon américain qui en décembre parlait dans une vidéo en fait publiée par sa mère sur Facebook du harcèlement dont il faisait l'objet à l'école. Donc il était en larmes, donc c'était des images extrêmement émouvantes. Beaucoup de médias l'ont traité. Nous-mêmes, on s'est évidemment posé la question, comme tout le monde. Et en plus, on a vu derrière que ça prenait énormément d'ampleur, puisque des grandes stars comme Justin Bieber ou Rihanna, en fait, témoignaient de leur sympathie aussi sur les réseaux. Et donc ça prenait d'énormes proportions. Et on a vu que les médias qui ont traité ce sujet ont fait des statistiques assez énormes, en fait, sur Facebook. Et en fait, quelques temps plus tard, on a appris que l'histoire derrière était en fait beaucoup moins rose qu'il n'y paraissait, que l'enfant en question était lui-même pas forcément un modèle en matière de harcèlement à l'école, et que sa mère par ailleurs avait des sympathies, on va dire, politiquement assez complexes. Ce qui fait que les médias qui ont traité le sujet ont dû après un petit peu rectifier le tir et faire d'autres contenus pour dire bon, en fait, ça l'histoire était moins rose qu'elle en avait l'air. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon sur Internet un canard au milkshake. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une belle histoire et qu'en fait derrière on n'a pas pris le temps de voir un petit peu tous les éléments autour et de se rendre compte que peut-être que la version très rose qu'on peut avoir au premier abord est pas forcément en fait la bonne.
Pourquoi on dit canard au milkshake? J'ai vu ça dans votre analyse, ça m'a fasciné. C'est...
Je me souviens un peu exactement des origines de l'expression. Il y a un très bon article de Slate qui explique ça, vers lequel je peux renvoyer les internautes.
On va googler tout ça. Donc ça, c'est une des conséquences, c'est le fait de finalement de réagir trop vite. Il y a d'autres conséquences peut-être négatives de cette surabondance d'indignation?
Oui, il y a aussi le fait que, en fait, si on s'anime pour tout, c'est-à-dire si on s'ennuie à la fois pour, on a vu le cas aux États-Unis l'année dernière, Starbucks qui décide de changer la couleur de ses gobelets, et à la fois on s'indigne pour l'évasion fiscale de multinationales, et à la fois on s'indigne aussi pour la mort du lion Cécile tué par un braconnier. En fait, tout ça finit par finalement s'aplatir et avoir un peu la même valeur. C'est-à-dire qu'on commence petit à petit, en tout cas ça c'est un peu mon opinion, et c'est aussi ce qu'explique Molly Crockett dans son analyse. On commence un petit peu en fait à ne plus faire vraiment la part des choses entre ce qui relève on va dire du drame réel et ce qui relève simplement d'une petite nuisance.
Trop d'indignation nuit à l'indignation, c'est ça?
Exactement. C'est ça que j'essaie de décrire un petit peu dans la fin de mon article. C'était bien sûr que l'indignation est toujours en fait quelque chose d'utile, mais il faut juste pas l'utiliser comme une arme systématique. Sinon, ça n'a plus de sens.
Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis cette chose assez invraisemblable, qu'une petite voix ou que des voix qui n'étaient pas entendues par avant réussissent à mettre peut-être sur le devant de la scène certains agissements qui ne vont pas ou qu'on estime immoral. Donc il y a aussi certains qui disent mais c'est génial, on peut faire effet boule de neige. Il y a plein eu de choses peut-être qui ont été résolues grâce à ça. Donc certains se disent on voit passer aussi plein de ces fameuses pétitions online, notamment sur change.org, etc. Donc certains se disent peut-être c'est comme ça qu'on fait bouger le monde aujourd'hui. Et c'est plus en descendant dans la rue.
Alors oui, bien sûr. Moi, j'adore les réseaux sociaux. Hein. Je suis pas du tout le dernier à les utiliser. Je pense que c'est un outil merveilleux. Vous citiez tous ces exemples-là. On peut aussi citer simplement ce qui s'est passé avec le hashtag MeToo ou avec le hashtag Balance ton porc. C'est évident que ça peut faire fondamentalement avancer des causes et beaucoup plus vite que enfin très très vite en fait. Simplement, c'est là où je pense on a une forme d'interrogation, en tout cas de réflexion à avoir, c'est plutôt dans notre pratique journalistique et de pas forcément s'emparer de tous les sujets qui donnent l'impression de faire réagir la gens simplement parce qu'on sait que ça va marcher entre guillemets.
Vous, par exemple, au Monde, est-ce que des vidéos d'indignation, vous en faites quand même ou pas du tout?
Oui, non, si, bien sûr, on en a fait. Et bon, j'avoue que depuis que j'ai commencé à réfléchir davantage à ces questions, je décide peut-être d'en faire un petit peu moins au quotidien dans mon service. Mais évidemment qu'on a fait, par exemple, des déclarations très fortes ou à l'emporte-pièce de Donald Trump. La question se pose encore, ne serait-ce que ce matin, avec la déclaration qu'a fait Donald Trump vis-à-vis de ce qu'il a considéré comme, on va dire, l'inaction, en tout cas l'incompétence des policiers au moment de la dernière tuerie la semaine dernière. Évidemment, on se pose en fait encore ces questions tous les jours. La question, c'est plutôt que de se dire non, on ne les fait pas par principe. C'est derrière de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement comme information, comme background derrière, quoi. Et pas simplement se limiter à cette phrase choc. Il y a un autre spécialiste, on parle souvent de Donald Trump, mais un autre spécialiste est aussi le président Duterte, qui fait aussi tout le temps des déclarations complètement déplacées et qu'on peut avoir tendance à reprendre simplement parce qu'elles sont très fortes et qu'on sait qu'elles vont faire réagir les gens.
Oui, il y a certains partis, même en Suisse, qui ont très bien compris ça, qui aimaient choquer. Ça pouvait être à l'époque par des affiches ou bien des prises de position très très fortes. Outrancien, mais il savait qu'il y avait un écho, enfin une petite phrase peut être beaucoup plus vue qu'une énorme publicité dans un journal. Ou enfin ça marche, c'est le principe même de la publicité. On a l'impression que Donald Trump ou d'autres ont très bien compris ce principe et qui poussent parfois peut-être le bouchon encore plus loin que ce qu'ils pensent pour pouvoir capter l'attention médiatique.
Oui, c'est sûr. Et je pense que c'est un peu notre rôle aussi de garder ce réflexe, de se poser systématiquement la question. Est-ce que ça a un intérêt que je reprenne ou non cette déclaration?
Est-ce qu'il est compliqué pour les médias, si on prend la question de l'indignation, c'est que l'indignation suppose une forme de position morale. Donc après, il faut savoir de quel côté, quelle morale on définit et qu'est-ce qu'on estime qui vaut une indignation et qu'est-ce qui ne vaut pas une indignation.
Oui, tout à fait. C'est sûr que, par exemple, sur des thématiques comme MeToo, le féminisme, on peut forcément avoir plus tendance à jouer un petit peu sur cette corde-là quand on est journaliste. Mais ce qui est un petit peu paradoxal aussi, c'est le sentiment que moi j'ai eu, c'est que on peut aussi, paradoxalement, peut-être porter préjudice à ces causes auxquelles on pensait pourtant faire écho, ou en tout cas qu'on pensait soutenir en faisant des sujets, poussant un petit peu l'indignation. C'est quelque chose que j'ai aussi un tout petit peu développé. C'est cette notion développée par la journaliste américaine Susan Faludi qui s'appelle le backlash, qui est qu'on peut avoir, tendance en fait à traiter énormément d'un sujet parce qu'on sait que ça fait réagir les gens, parce qu'on sait que c'est bankable entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même ça la question, c'est une question d'audience, et qu'en fait, à force de le faire, on peut avoir une sorte de retour de bâton qui fait qu'on peut finalement, faire du mal à cette cause. Et c'est ce qui s'est passé selon elle avec le féminisme déjà dans les années 80 aux États-Unis, où en fait les médias parlaient énormément de l'émancipation des femmes qui prenaient leur place dans la société, qui étaient les working girls, conquérantes, etc. Et qui se rendant compte derrière que leurs conditions en fait s'amélioraient pas forcément, ensuite ont complètement retourné leur veste et ont plus ou moins mis sur le dos justement de trop de féminisme le fait que les femmes n'étaient toujours pas heureuses dans leur vie. Et simplement, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas encore un risque aujourd'hui qu'on ait de nouveau ce genre de retour de bâton-là, si on en fait trop, si on joue trop sur ces cordes de l'indignation.
Et puis il y a aussi une forme de lassitude aussi, par le retour de bâton et aussi la lassitude. Vous, les vidéos, vous m'expliquez aussi, vous faites de plus en plus ces vidéos dites explicatives, vous faites ces petites vidéos qui essayent de décortiquer ou d'expliquer de manière assez simple une thématique assez compliquée. C'est ça un peu l'avenir, vous pensez?
Alors, je me garderais bien de faire des prédictions de l'avenir pour tout le monde. Je pense avoir un peu une vision de ce qui peut être l'avenir pour nous au monde. Nous, on s'est concentré là-dessus précisément parce qu'on sait qu'on n'est pas les plus rapides, en fait, toujours pour traiter de ces vidéos, parce qu'on est peut-être moins, on a moins de force sur les réseaux sociaux, par exemple, que des gens comme Brut, qui ont basé leur modèle dessus. En revanche, il y a quelque chose qu'on sait mieux. En tout cas, qu'on estime savoir faire à peu près bien, c'est donner du contexte, prendre du recul, expliquer des choses. Et par ailleurs, on a une grande rédaction avec des tas de journalistes qui sont tous experts dans un domaine ou un autre. Et on peut s'appuyer sur leur expertise pour justement donner un peu de perspective aux gens. Donc c'est plutôt ça qu'on essaie de faire nous aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas de continuer quand même à faire, bien sûr, des petites vidéos d'actualité parce que on reste un site d'actualité chaude, mais le gros de notre travail effectivement aujourd'hui, c'est de faire avant tout des vidéos à la fois pour expliquer des choses très on va dire complexes comme la guerre en Syrie ou des choses plus simples du quotidien, par exemple pourquoi est-ce que le clavier d'ordinateur que vous utilisez au quotidien est un clavier AZERTY.
Est-ce que vous pensez, on a beaucoup parlé de la nouvelle politique de Facebook, ces nouveaux algorithmes qui un peu rendent moins visibles notamment les médias, est-ce que vous pensez que ça risque de changer un tout petit peu cette mode de l'indignation, ou en tout cas que ça va changer quelque chose sur ce point précis?
Ça, c'est assez dur de le savoir. En tout cas, ça va être assez fascinant de regarder comment ça va évoluer. J'imagine que oui, ça peut-être aider à assainir. Et en même temps, j'ai aussi lu par ailleurs que d'autres personnes étaient convaincues qu'au contraire, ça allait favoriser le développement des fake news. Donc là, j'avoue que je me suis malheureusement pas devin et je peux pas trop le savoir.
Et vous, au Monde, vous souffrez un petit peu de cette nouvelle politique qui met peut-être les médias un petit peu plus en retrait des fils Facebook?
C'est beaucoup trop tôt pour le savoir parce que c'est quand même très récent. On a vu évidemment dans les statistiques que ça avait tendance, notamment en tout cas en ce qui concerne les vidéos, à tomber. Mais non, je pense. En fait, on a la chance par rapport à d'autres médias d'être moins dépendants des réseaux sociaux comme Facebook, puisque les gens viennent encore spontanément sur la home du Monde.fr pour regarder l'information. Donc en fait, ça m'inquiète pas plus que ça.
Merci beaucoup Olivier Clairoin d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes chef du pôle vidéo du Monde. Bonne suite de journée.
Bah, vous de même. À bientôt.
Et merci beaucoup à Alexandre Davoine et à Alexandre Lemierre qui étaient tous deux à la technique, l'un à Lausanne, l'autre du côté de Paris ce matin. Demain, nous parlerons de la foi et de l'humour. Et oui, c'est possible. Mais là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Laurence Bizang et ses décodeurs. Je vous souhaite une très belle suite de journée.